Au téléphone sonne ce soir, et si on parlait d'argent, de notre rapport personnel et collectif à l'argent? Vous allez me dire, on ne fait que ça dans ce pays, débattre des revenus des uns et des autres, des inégalités, de la redistribution des richesses, des impôts et des taxes, de la justice fiscale et j'en passe. Oui, mais ce soir, on va tenter d'aller un petit peu plus loin. On va notamment s'interroger sur les raisons qui font qu'en France, on ne dévoile pratiquement jamais son salaire, sauf si l'on est vraiment très pauvre. Sur les raisons pour lesquelles les riches sont montrés du doigt, y compris lorsqu'ils sortent leur chéquier, comme cela s'est produit lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bref, on va tenter de comprendre d'où viennent ces jalousies qui n'ont pas forcément cours dans d'autres pays où l'on est parfois très fier d'étaler sa fortune. On se demandera au passage si la France est un pays plus inégalitaire que d'autres ou pas. Et on verra ce qu'il en est des processus de redistribution mis en place pour lutter contre les inégalités. On va le faire à l'occasion de la publication par le magazine Challenge du traditionnel palmarès des grandes fortunes. Sachant que c'est encore une fois Bernard Arnault qui s'affiche à la une avec 90 milliards d'euros cette année, soit 16% de plus que l'an dernier. Avec nous pour parler de tout cela, Vincent Beaufis, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction de Challenge. Louis Morin, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Directeur de l'Observatoire des inégalités. Et Janine Mossulaveau, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, faut-il le rappeler. Et vous avez publié, entre autres, parce que vous avez fait plein de choses, vous avez publié L'argent et nous, c'est aux éditions de La Martinière, c'est bien ça. Pour intervenir et pour interpeller nos invités, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction Le Standard de France Inter pour un tout premier appel qui nous vient de Guadeloupe. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je disais que dans mon mail que je crois que la France a du mal avec les chiffres en règle générale, avec le concret. Donc les chiffres, on n'aime pas trop ça, on aime manier des grands concepts, mais on n'aime pas manier des chiffres, des choses concrètes. Et l'argent est quelque chose, je vois dans les pays anglo-saxons, est quelque chose de tout à fait valorisant. On considère même souvent que c'est un blessing, comme on dit les Américains, c'est-à-dire quand vous travaillez, ou les Anglais, vous avez travaillé, vous avez gagné de l'argent, c'est quelque chose de très positif, que vous allez pouvoir aussi en redistribuer, c'est aussi très positif, et que c'est pas du tout à opposer à la fraternité ou à la solidarité. Et ça, ce sont des concepts dont on a du mal en France à partager ce genre de concepts. Je crois qu'on est fâché avec les chiffres, on est fâché avec le concret, on aime manier des grandes idées, des grands concepts, l'égalité, etc. Mais concrètement, dans les résultats, on a du mal à évaluer les choses, à parler de chiffres, à parler de réalité, pour vraiment se rendre compte des situations.
Eh ben on va voir ce qu'en pensent nos invités. Merci mille fois Jean-Marie pour cette entrée en matière. Qui souhaite réagir, Vincent Beaufis peut-être sur.
Moi je peux dire qu'effectivement ce classement sur les grandes fortunes qu'on fait depuis 23 ans et donc ce qui est un ensemble de chiffres puisque c'est le patrimoine et le patrimoine professionnel, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'argent des entrepreneurs qu'ils ont dans leurs entreprises ou des familles dans leurs entreprises. On s'intéresse pas du tout au bas de laine ou à la fortune qui ne travaille pas. Et c'est quelque chose qu'on fait donc depuis longtemps, et c'est vrai qu'on a eu du mal au début à faire comprendre ce qu'était notre esprit et que peu à peu la manière dont on faisait ce classement était de plus en plus comprise, que c'était un indicateur de performance de la réussite d'un certain nombre de 500 des 500 fortunes. Et là, on revient complètement en arrière. Je pense que c'est très très lié à ce qu'a été l'actualité des Gilets jaunes, et que de nouveau, on est fâché avec les chiffres, les fortunés ont du mal à en parler, et on a l'impression que l'épisode que nous avons vécu depuis quelques mois nous a fait revenir des années en arrière.
En lisant ce que vous avez publié, il y en a qui vous ont dit, c'est peut-être pas la bonne idée, le bon moment de publier tout ça, c'est ça ?
Il y en a même qui nous ont demandé, est-ce que vous ne mettriez pas toute cette information de côté, et on en reparlerait l'année prochaine. Bien entendu, on veut dire, on a gardé notre rendez-vous annuel.
Alors on va y revenir, mais ça veut dire quoi, Louis Morin ? Ça veut dire que quand on publie les grosses fortunes, on pense forcément aux inégalités qu'il y a dans le pays, c'est ça ?
Oui. Alors est-ce que les Français sont fâchés avec les chiffres ? Moi, je pense que les choses évoluent positivement. Il y a de plus en plus, on en parle, on en discute, on en débat. Pour une partie, c'est vrai, si c'est une page de publicité pour une radio concurrente, c'est vrai qu'il y a un peu les grandes gueules dans ce pays. On aime bien s'envoyer des choses à la figure, on aime bien la belle rhétorique. Puis souvent, on a du mal, je suis d'accord avec ce que dit l'auditeur, à se mettre en face d'éléments concrets. Mais en matière de richesse, faut pas retourner les choses. C'est vivons heureux, vivons cachés. C'est-à-dire, si on n'a pas de données, c'est d'abord parce que les riches cachent les données, notamment sur leur fortune personnelle qu'on ne connaît ou qu'on ne connaît que très très mal. Et là, il y a beaucoup de médias et d'organismes qui sont demandeurs d'éléments pour avoir les clés du débat, pour qu'on puisse débattre vraiment sérieusement de ces éléments-là, en disant, voilà, quelle fortune, quel niveau, combien se représente. Les gens, juste un exemple, la fortune de Bernard Arnault, c'est quand même, il faut bien s'en rendre compte, il y a les chiffres et puis il y a l'expression de ce que c'est. C'est quand même l'équivalent de 4 millions d'années de travail d'un smicard. Là, comme ça, je pense que les auditeurs
on
voient
on va juste
ouvrir
la parenthèse. 90 milliards d'euros, c'est la troisième fortune même du monde, c'est ça.
C'est la troisième fortune du monde. C'est certain que Bernard Arnault a été porté par la réussite de LVMH. Il a été porté également parce que l'ensemble des valeurs du luxe ces dernières années eu des excellentes performances économiques dans l'entreprise et donc en bourse. Et donc effectivement, alors que les trois grandes valeurs de la Bourse de Paris, c'était des valeurs industrielles ou pétrolières, Sanofi, Total, maintenant on a LVMH. Et on a L'Oréal, qui c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui a profité à Bernard Arnault, à la famille Bettencourt. Donc c'est une réalité, mais je suis pas tout à fait d'accord avec Louis Morin quand il dit qu'on les cache. Nous, j'ai fait part de quelques réactions. Les 500 fortunes, en tout cas fortunes professionnelles, elles sont là et on les a fait avec la même facilité parce que c'est nous qui faisons ces estimations.
Janine Mossulaveau, sur ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, qui nous appelait de Guadeloupe.
Alors, je pense pas qu'on soit fâché avec les chiffres, mais ce qui existe et que j'ai pu constater moi quand j'avais fait cette enquête sur l'argent inouï que j'ai faite par histoire de vie, donc en demandant aux gens de me raconter depuis la petite enfance, comment ils avaient découvert l'existence de l'argent et en remontant tout le cours de leur vie. Donc ils ont beaucoup livré de leur intimité en sachant que c'était bien sûr anonyme, confidentiel, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que bien sûr chez les riches, donc vous avez pu le constater, c'est difficile d'avoir ce qui concerne la fortune personnelle, indépendamment de ce qui est professionnel. Mais d'une manière générale, en France, c'est vrai que la question de l'argent et parler d'argent, c'est tabou. C'est encore tabou. Ça, c'est un peu, je pense, débloqué ces dernières années, mais quand même, c'est tabou. Moi, j'ai pu le constater de plusieurs façons, notamment quand j'ai voulu faire cette enquête sur l'argent inouï. Il se trouve qu'avant, j'avais fait une enquête sur la vie sexuelle, amoureuse et sexuelle des Français.
Là, c'est plus facile.
Voilà. Et ben, c'était plus facile. Là, j'ai notamment demandé à des personnes qui avaient été volubiles et très ouvertes pour parler de leur sexualité en me disant, je vais commencer l'enquête de façon soft et on va faire l'enquête sur l'argent. Et j'ai eu la surprise de voir que non, il y avait des choses qu'ils n'arrivaient pas à dire, et même il y en a un jour qui a explosé en me disant « mais vous posez des questions que personne n'osait poser » parce que je lui demandais de me dire son patrimoine, simplement, c'était pas très très...
On n'est définitivement pas les Américains. Hein.
Voilà, alors non, les Américains...
Oui, c'est le contraire.
Aux États-Unis, les gens, ils vous demandent combien tu gagnes, et même c'est même pas seulement combien tu gagnes, c'est combien tu vaux. Et donc, c'est valorisé, c'est normal d'en parler, etc. Mais en France, si vous voulez que je dise un peu pourquoi je pense que c'est tabou, si vous voulez, c'est que il y a toute une histoire, tout un passé qui joue encore, même s'il vient peut-être jouer de moins en moins, mais enfin qui joue encore. Je veux dire que d'une part, à une, deux ou trois générations près, on vient tous du monde rural. Et dans le monde rural, on mettait pas de l'argent à la banque, on le mettait sous le matelas ou dans des endroits cachés parce qu'il fallait pas qu'on vous le vole, etc. etc. Et puis parce que on savait très bien que si on avait eu une bonne récolte une année, l'année d'après, on pouvait n'en avoir pas du tout. Donc c'était vital d'avoir l'argent chez soi contrôlé. Il y avait ça. Dans notre tradition, il y a le catholicisme qui, à l'origine, il faudrait pas l'oublier, c'est une religion pour les pauvres, pour aider les pauvres, etc. Et puis, il y a eu l'influence aussi, pas sur toute la population, mais en tout cas sur une partie, du marxisme qui disait que, en gros, ce que les gens en ont retenu, c'est, ils n'ont pas lu Marx, mais ce qu'ils en ont retenu, c'est le profit, c'est pas bien. Donc tout ça fait que ça
tout ça mis bout à bout, on a du mal à en parler. Voilà. Vincent Bouffis, je vous promets, je vous donne la parole, mais on va quand même repasser par le standard de France Inter. François est en ligne. Bonsoir François.
Bonsoir madame.
On vous écoute François.
Déjà je voulais vous dire que vous aviez un très bel accent espagnol.
Qui ?
C'était vous tout à l'heure. Hein.
Je ne sais pas.
Non, c'était pas vous. Tant pis, je me suis égouré d'émission alors.
Là, c'est le téléphone sonne. Voilà. Plutôt en français.
Je voulais vous dire que, enfin voilà, moi, ça fait 15 ans à peu près que je bosse dans le milieu de la justice. Et je trouve qu'on ne travaille plus pour les clients ou les justiciables. On travaille surtout pour l'argent, énormément pour l'argent, et au détriment du dit justiciable ou du dit client. Et ça paraît un peu inquiétant, je trouve.
C'est-à-dire ? Alors, je ne vous ai pas tout à fait saisi, François.
Des conclusions valent tant, une assignation vaut tant, une présence à l'audience vaut tant, et si vous ne pouvez pas payer tant, nous n'y serons pas. Et je trouve que la justice se part un peu de ce côté d'argent et passe-monnaie.
Voilà. L'argent est trop présent, c'est ça que vous voulez dire?
L'argent est trop présent, bien évidemment, et surtout pour les justiciables. Enfin, c'est quelque chose qui, pour les avocats, les huissiers, enfin les huissiers, pas encore, mais les avocats, oui, bien sûr, bien sûr.
Merci François pour votre appel ce soir au téléphone sonne de France Inter. Louis Morin de l'Observatoire des inégalités.
Non, mais la question que François pose là, c'est la question aussi des services publics et puis la question de l'égalité devant la justice. C'est un très bon exemple où dans ce pays, on a très peu d'éléments pour savoir si riches ou pauvres sont égaux par rapport à la justice. Ce qui serait, s'ils n'étaient pas égaux, ce serait profondément injuste. Or, les éléments qu'on a, les quelques éléments qu'on a et qu'on a collectés avec l'Observatoire des inégalités le montrent. C'est-à-dire que vous soyez riche ou pauvre, vous n'êtes pas jugé de la même façon, vous n'encourez pas les mêmes peines parce que vous n'êtes pas aussi bien défendu, etc. Parce qu'aussi, la justice, peut-être, n'a pas les moyens, ou a moins les moyens de faire son travail de service public et d'équité par rapport au jugement.
Ça, c'est encore un autre débat, hein, le débat sur les services publics. On en parle souvent ici. Vincent Beaufils,
Je voulais juste dire qu'il y avait quand même quelque chose qui est de nature à nous rassurer par rapport à l'égalité riche ou pauvre devant la justice. Il y a deux procès actuellement dont on n'a pas encore les jugements. Celui qui est en train de se terminer de France Télécom où, sur le banc des accusés, il y a des anciens patrons, donc des gens qui sont vraiment dans le monde des riches. Et puis, il y a celui dont on va avoir le verdict la semaine prochaine de Stéphane Richard, qui n'est pas simplement jugé parce qu'il était ancien fonctionnaire, mais on sait que Stéphane Richard, c'est quelqu'un qui a fait une fortune. Il n'est pas dans le classement de challenge, mais il s'est jamais caché, lui, par contre, d'avoir gagné d'argent à un moment donné. Et je dis simplement que c'est rassurant de voir que ces deux procès se sont déroulés et on va voir ce que vont être les verdicts.
Vincent Beaufils, je voudrais qu'on approfondisse un tout petit peu sur votre enquête, parce qu'on a parlé de Bernard Arnault. Soit dit en passant, 16% d'augmentation en
16%
un an.
16% d'augmentation en un an. Globalement, l'ensemble de nos 500 fortunes ont progressé de 6%. C'est un petit peu moins que les années précédentes, mais il faut reconnaître, et c'est là où la profondeur du classement est intéressant, l'historique. Ce challenge fait cela depuis maintenant 23 ans, et quand on a commencé ce classement, ce qu'on appelle le FMIC. Le FMIC, c'est la fortune minimum pour intégrer le classement, donc le 500e. Eh bien, le 500e, il était à 100 millions de francs à ce moment-là, donc un peu moins de 15 millions d'euros. Et ces 15 millions d'euros sont devenus 155 millions d'euros, effectivement, cette année. Alors, on peut se dire, il y a deux lectures de cela. Hein. On peut se dire vraiment, comme le disent les économistes type Thomas Piketty ou les Gilets jaunes, ça montre qu'il y a une concentration de la richesse. Et puis nous, on a une lecture qui est un peu haute, qui est de dire que effectivement, quand un pays marche bien, quand il y a une réussite collective, ça ne peut pas passer sans des réussites individuelles et donc sans des fortunes individuelles. Et j'étais moi hier tout à fait par hasard à un dîner, à côté de moi j'avais un entrepreneur, il avait commencé sa boîte exactement au moment où on a commencé ce classement. Et il fait maintenant, dans les arômes, 60 millions de chiffre d'affaires. Et donc celui-là, on prendrait que lui, on dirait mais ça y est, la richesse se concentre. Il fait, il a fait un très bel itinéraire entrepreneurial et il a maintenant une entreprise qui, je pense, l'année prochaine, intégrera le classement.
Le total cumulé de vos 500 plus grosses fortunes, c'est 650 milliards d'euros.
Oui, c'est ça, mais c'est pas mal. Mais ce qui est intéressant, moi, je pense que c'est surtout que globalement, le patrimoine de ces 500-là, il a grossi. Et d'ailleurs, par rapport au PIB, effectivement, il a augmenté. Ça faisait 2% du PIB, maintenant ça fait 6%. Donc ça, c'est une réalité sur les 20 années qu'on a vécues.
Louis Morin.
Et ce que vient de dire Vincent Beaufils prouve très simplement juste une chose, c'est-à-dire que le niveau de la fiscalité française, et ça, là, tous les travaux de l'économiste Thomas Piketty le montrent très très bien, n'est pas confiscatoire et n'empêche pas l'accumulation de cette richesse. Et que réduire encore les prélèvements sur la richesse ou sur la transmission de la richesse ne fait que grossir cette accumulation et va en sens inverse même du dynamisme de l'économie.
La France, toujours dans votre magazine, ou c'est peut-être dans d'autres travaux, la France est après la Suisse le pays d'Europe où les riches sont les plus riches. C'est vous, ou peut-être Louis Morin.
Ça,
c'est vos travaux à vous.
C'est Eurostat. Hein, Eurostat, c'est l'organisme européen de statistique. Simplement, là, on parle plus de fortune, mais on parle de revenus, ce qui vous arrive chaque année. Et les 1% se situent un cran très nettement en dessous de Bernard Arnault, puisque on entre en France à l'intérieur de ce 1%. Alors, dans ce 1%, il y a Bernard Arnault tout en haut, mais il y a aussi des niveaux inférieurs. On entre dans ce 1% à partir de 7000 euros. Hein, donc, on n'est pas du tout, c'est pas du tout la même échelle par rapport à ce qu'on disait auparavant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est au deuxième plan des pays d'Europe, juste après la Suisse, qui a un côté particulier, parce que c'est une plaque tournante de l'argent. Mais la France, finalement, peut-être un problème avec ses riches, je sais pas, mais en tout cas, on aime bien les riches. D'ailleurs, ils sont nombreux, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, et ils sont riches. On n'a pas de difficulté, finalement, fondamentale avec l'accumulation et la richesse en soi.
Ça veut dire quoi? Qu'on a plus de difficultés dans le discours?
Dans le discours, bien sûr, parce que il y a la tendance à cacher de peur que on vous le prenne. C'est un réflexe assez, assez facile. Et je pense que si vous pouviez avoir une prochaine enquête les revenus, l'argent personnel, pas seulement le patrimoine professionnel, ça nous réserverait peut-être quelques surprises. Hein, je ne sais pas. Ce que je voudrais ajouter, c'est que il y a quand même aujourd'hui un discours. Je trouve qu'il vient notamment, effectivement, beaucoup du monde de l'entreprise, beaucoup de la droite, etc., disant que chaque fois qu'il y a une mesure qui viserait à augmenter un prélèvement, on étrangle les entrepreneurs, on met vraiment des obstacles devant le développement, au fond, de la richesse et de la création de richesse, donc à terme de la création de l'emploi, etc., etc. Mais en même temps, on voit bien que il y a certains niveaux de fortune et de patrimoine, donc sans qu'on prenne en compte le reste de la fortune, qui pourrait très bien contribuer un peu plus.
Hein. Alors, juste quelque chose, oui, parce que quand on parle de ce fameux 1% des plus riches, qui est quelque chose qui a été effectivement un peu popularisé par les études de l'économiste Thomas Piketty, eh bien, si on parle du revenu, il faut se rendre compte également que la part de ce revenu-là dans l'ensemble des revenus en France du PIB français n'a pas bougé en France en 30 ans. Alors que dans d'autres pays qui sont beaucoup plus inégalitaires, comme les États-Unis, il a triplé, en Grande-Bretagne, ça a doublé. C'est-à-dire que c'est vrai que globalement, on s'est enrichi en matière de patrimoine, en matière de revenus, notamment compte tenu effectivement des impositions, ça n'a pas bougé. Nous sommes une société beaucoup plus redistributrice que celle de nos voisins.
Alors Louis Morin, promis, je vous donne la parole, mais on passe au standard avec Eric qui nous appelle du Var. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir. Bon ben moi, je vous avoue que je suis un petit peu embêté parce que peut-on faire fortune autrement que sur le dos des pauvres? Et puis d'où leur vient en fin de compte la fortune aux très riches? Parce que le blues des milliardaires, faut quand même pas exagérer. On est quand même dans un monde où on se rend compte que globalement, être milliardaire, c'est pas moral parce que ce n'est penser qu'à soi et vouloir payer moins d'impôts. C'est pas chrétien, ben, parce que normalement on doit partager. Et c'est pas écolo parce qu'on sait très bien que les très riches polluent beaucoup plus que les pauvres. Donc moi, je suis un petit peu sur la théorie du ruissellement. Ça fait pas mal de temps qu'on nous le tartine. Globalement, même si on peut nous expliquer qu'en France on vit mieux qu'en Ouganda ou en Ukraine, il n'empêche qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, il y a des gens qui sont dans la merde. Et moi, de savoir qu'il y a des gens qui possèdent 60 milliards, je trouve ça inadmissible. Quand on est dans le monde dans lequel on est. Et en plus, c'est des gens qui polluent. Donc, indépendamment, ils ont des jets privés, ils polluent la planète, et en plus, ils sont milliardaires et ils veulent pas partager. Pour moi, c'est inadmissible.
Merci beaucoup, Eric, pour votre intervention sur le fait qu'on est riche parce que les autres s'appauvrissent, Louis Morin.
Oui, alors, plusieurs choses. Les vases communicants, il faut entendre l'auditeur et ce qu'il dit, c'est vrai qu'il y a une forme d'indécence. C'est vrai que posséder une fortune équivalente à 4 millions d'années de travail de SMIC, il y a un problème. On est une société qui a un problème. À ce niveau-là, il faut reconnaître ça. Après, ce que je trouve dans la question intéressante, c'est de se poser la question de l'enrichissement sans avoir une vision mécanique. Ils sont riches parce que les autres sont pauvres. Il faut quand même que ces grands patrons reconnaissent que leur fortune vient peut-être des stratégies personnelles, peut-être aussi de coups de bol, on l'oublie, de bons coups et de coups de bol boursiers ou autres ou d'entreprises, mais aussi que ceux qui suent pour que leur fortune se fasse, c'est quand même les salariés, c'est quand même les gens qui travaillent, pas dans toutes les entreprises et notamment dans les grandes entreprises, c'est plutôt dans les bonnes conditions, mais dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Et que on n'est pas seulement une question de richesse, mais effectivement une question, on a là bien une question d'inégalité. Songez qu'on vient de publier une note sur laquelle on a calculé le montant qu'il faudrait pour que on puisse supprimer, entre guillemets, statistiquement la pauvreté, pour faire en sorte que chacun ait un revenu équivalent à 860 € par mois, ce qui est quand même très très modeste, mais bon, à ce niveau-là, c'est le seuil de pauvreté selon lequel qu'on calcule nous. Ça coûterait à la collectivité 7 milliards d'euros. Mettez-le en regard de soit ses fortunes, soit de la baisse de la taxe d'habitation 20 milliards d'euros, soit du plan riche qui a été adopté en 2017 qui vaut 5 milliards d'euros. On comprend cet auditeur, on comprend la tension que ça peut générer. Il y a deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'on va trop loin dans les excès et à force, ça débouche sur des tensions sociales.
Vincent Beaufils.
Je pense que Louis Morin, vous pouvez pas dire ça sans ne pas rappeler que en France, le taux de pauvreté est à un niveau moins élevé que de pays bien comparables comme l'Allemagne, la Suisse ou quelques autres. Donc je pense qu'il faut d'abord dire ça. Et pourquoi est-ce qu'effectivement on a moins de pauvres, même s'il y en a toujours, c'est parce que, encore une fois, on a un système redistributif très élevé. Deuxième remarque par rapport à ce que dit l'auditeur, quand il dit c'est pas chrétien, ça voudrait dire là encore que la religion a quelque chose à voir. J'ajoute, je recommande aux chers lecteurs de lire Challenge cette semaine et de lire l'excellente interview qu'on a fait de l'histoire historien Jacques de Saint-Victor, qui dit que le problème qu'on a avec l'argent n'a rien à voir avec les religions. D'ailleurs, la preuve, c'est que des pays très catholiques, comme l'Italie et l'Espagne, n'ont pas du tout cette même suspicion vis-à-vis des riches. Troisième chose, quand effectivement on parle de Bernard Arnault, c'est inadmissible, mais c'est quelque chose quand même qui met de côté le travail qui a été fait, je dis pas simplement par Bernard Arnault, mais par tous les gens de LVMH. Cette boîte, c'était pas grand-chose au moment où il a racheté, avec un coup de flair formidable, effectivement, Dior et quelques autres dans les années 80, et il en a fait le leader mondial du luxe. Et s'il est valorisé maintenant près de 150 milliards en bourse, c'est pas parce que effectivement il y a rien, c'est pas du vent, ce sont des actifs, c'est du chiffre d'affaires et c'est des bénéfices. Mais les bénéfices, ça fait partie de notre système. Donc dire c'est inadmissible parce que effectivement la personne qui possède 46% de ça arrive à ce chiffre très élevé qu'on a dans notre classement de challenge, je trouve que c'est un peu facile et, pour le dire, même un peu démagogique.
Jeanine Mossieu Lavaux, allez, alors, moi, jouez les juges de paix.
Je voudrais dire deux choses. D'abord, je ne pense pas qu'on puisse, au fond, évacuer le problème des inégalités en France en disant « Ah oui, mais dans d'autres pays comparables, etc., c'est bien pire ». Parce que c'est pas vrai la plupart des pays européens, et ça ne peut pas justifier, si vous voulez, une situation quand même très inégalitaire et qui pousse notamment des gens à des extrêmes, c'est-à-dire bon, vous avez d'extrêmes fortunes et puis de l'extrême pauvreté. Et ça, malgré l'État-providence, malgré tout le social et malgré tout ce que disons les adversaires taxent d'assistanat, ça existe. Et en fait, on a, c'est vrai pour, je dirais, caractériser un petit peu notre pays. Vous avez un niveau élevé, vous avez une, je dirais, une culture de la gagne, et puis à l'autre niveau, plus loin, plus bas, vous avez en fait ce que des gens apprennent depuis tout petit, c'est-à-dire la culture de faire gaffe sur tout, toute la moindre dépense, la moindre chose, et ça. Faut voir ce que c'est que les gens qui vivent de cette façon-là. Je comprends que ça leur soit insupportable d'entendre dire que effectivement, il y a des gens qui ont X ou Y millions ou milliards d'euros disponibles comme ça, quoi. Donc, je crois qu'il faut avoir ça en tête si on veut.
Il faut également admettre que pour continuer sur l'exemple de Bernard Arnault. Ouais. La manière dont LVMH s'est développée a permis de créer des dizaines de milliers d'emplois.
Bien sûr.
Et donc, bien sûr que chacun, effectivement, a loué sa force de travail et que, effectivement, c'est pas un échange, c'est pas de la bonté de Bernard Arnault d'avoir fait travailler, c'est d'avoir recruté des gens qui sont payés. Mais enfin, c'est quelque chose, quand même, derrière lequel une société comme la nôtre doit courir plutôt que se dire, allez, on va prélever davantage encore les fortunes.
Louis Morin, puis après on part au standard.
Non mais rapidement, je crois que les Français n'ont aucun problème par rapport à l'entreprise et Bernard Arnault en particulier, l'enrichissement. Le problème c'est par rapport à l'écart qui se trouve, c'est l'ampleur de l'écart. C'est pas du tout que les chefs d'entreprise réussissent, c'est très bien, tout le monde aime bien les chefs d'entreprise. C'est l'écart. Et puis c'est le débat public, c'est-à-dire quand on a un président de la République quand même qui nous dit qu'on dépense un pognon de dingue
pour les aides sociales.
Voilà, et pour les pauvres. Et que de l'autre côté, on voit l'étalement de ces fortunes-là, c'est quelque chose qui ne fait qu'attiser les tensions dans ce pays.
Et qu'on a beaucoup entendu au moment de la crise des Gilets jaunes, la justice sociale et fiscale était une des premières revendications lors du grand débat.
Contre ces formes d'injustice qui sont toujours très présentes malheureusement dans notre pays.
On parlera tout à l'heure de la redistribution et notamment de la politique fiscale, mais Antoine habite à Caen et il est au bout du fil. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci beaucoup. Alors je voulais témoigner, moi je suis chef d'entreprise, j'ai créé une société qui s'appelle YouSign il y a bientôt 6 ans. Et il y a un an, on a décidé de mettre en place la transparence des salaires au sein de l'entreprise. Donc on est 30 collaborateurs. La rémunération était un sujet assez tabou, comme dans beaucoup d'entreprises. Et on a décidé justement de prendre... je dirais le sujet et de le résoudre, je dirais en proposant voilà une grille transparente qui permet aux collaborateurs de comprendre les règles du jeu et donc de comprendre leur niveau de rémunération.
Elle est de combien l'échelle des salaires dans votre entreprise à peu près?
Alors la rémunération annuelle
entre ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins, c'est-à-dire
elle est de l'ordre de un multiplicateur de 3, je dirais.
Et donc du coup, ça n'a pas posé de problème. Les gens ont compris. Comment ça s'est passé quand vous avez mis ça en place?
Alors ça s'est très bien passé. Hein. On a une culture de la transparence, donc c'était dommage de pas aller au bout dans ce domaine-là. Donc il y a eu évidemment un certain nombre de questions comme. Quand on met en place quand on fait des changements dans les entreprises, mais la nouvelle a été très bien prise, justement, et les collaborateurs aujourd'hui comprennent pourquoi ils sont à tel niveau de rémunération et surtout comment faire aussi pour évoluer. Les règles du jeu sont connues pour et partagées de tous.
Merci Antoine pour ce témoignage, Louis Morin.
Antoine est un vrai libéral. C'est-à-dire qu'il joue carte sur table. C'est un libéral de l'information. Si vous voulez faire un test auprès d'un patron, vous lui dites, Est-ce que vous publiez votre salaire, le salaire et tous les accessoires des cadres dirigeants? Est-ce que vous publiez l'ensemble de la grille des salaires? Moi, je trouve que c'est tout à fait libéral et tout à fait pour qu'on diffuse les, que chacun connaisse les salaires de chacun pour que puisse s'établir un débat avec des éléments concrets. Ce qui ne veut pas dire qu'on ait les mêmes salaires, que tout le monde ait les mêmes salaires, pas du tout, mais qu'on puisse réellement, qu'il y ait une liberté de l'information et qu'on puisse débattre de ce que chacun gagne.
Vincent Beaufils.
Oui, juste, il faut rappeler à cet auditeur, il le sait sans doute d'ailleurs, que pour toutes les entreprises cotées, cette information est parfaitement disponible pour les mandataires sociaux. C'est-à-dire qu'on sait quels sont les plus hauts salaires, on sait généralement quels sont les plus bas salaires, et donc les écarts, ils sont connus. Ils sont d'ailleurs très très élevés. On n'est pas de 1 à 3. C'est-à-dire que le petit biais dans l'exemple que vient de nous donner notre auditeur, c'est que moi je connais très peu d'entreprises dans lesquelles il y a un écart de salaire de 1 à 3. Franchement, c'est tout à fait exceptionnel.
Janine Mossulavo.
Oui, parce que on est quand même dans une société qui est encore très inégalitaire, et c'est vrai que là, c'est l'exemple de Caen, contre ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que on est aussi dans une société, pour la plupart, je dirais des entreprises, mais pas seulement des entreprises. Je veux dire que ça peut être de l'université, ça peut être de toutes sortes de la fonction publique aussi, ça peut être de toutes sortes d'endroits et pratiquement de la majorité. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. On a encore une culture du secret. Et ça, c'est pas, je trouvais, évident d'arriver à contrer ses habitudes, ses traditions et le fait que chacun ne veut pas qu'on sache combien il gagne, parce que sinon, c'est comme, je veux dire, quand les gens gagnent au loto, souvent ils demandent à rester anonymes parce qu'ils savent qu'on va venir les taper. Donc
pour les gros gains, la Française des Jeux le conseille d'ailleurs.
Voilà. Et donc, petit niveau, c'est un peu la même chose qui peut se passer. Donc,
c'est pas évident. Peut-être un mot de la politique fiscale actuelle, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure. À qui profite-t-elle aujourd'hui?
Alors, ce qui est certain, et on a fait un sondage là-dessus, c'est que tout se cristallise autour de l'ISF. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes. Il est, quand on parle de président des riches, pourquoi est-ce qu'on considère qu'Emmanuel Macron est le président des riches? C'est pas tellement par rapport à ses petites phrases, c'est même pas par rapport à la baisse des aides au logement, c'est pas la baisse de la fiscalité sur le capital. Tout ça, c'est, je veux dire, il y a qu'un Français sur quatre qui considère que ça explique que Macron soit le président des riches. Mais il y en a 2 Français sur 3 qui disent c'est parce qu'il a supprimé l'ISF. Donc il y a une focalisation, je dirais presque une hystérisation autour de l'ISF qui fait que avoir touché à l'ISF, c'est le péché originel.
C'est comme il y avait eu pour Nicolas Sarkozy la loi TEPA au début de son quinquennat.
C'est le mal absolu. Et on s'est livré, je vais peut-être pas trop le détailler là, mais à un vrai bilan. Il va y avoir un comité d'évaluation avec des tas d'économistes, sociologues qui vont bosser là-dessus. Nous, on a fait une enquête très très poussée sur, au bout de effectivement presque 2 ans de cette mesure, qu'est-ce que ça a donné, et les résultats sont absolument passionnants. On voit vraiment des entrepreneurs qui ont changé leur comportement, même si macroéconomiquement on est totalement dans le brouillard.
En tout cas, ils disent bien dans les colonnes de Challenge qu'ils sont très contents de cette réforme.
Ils sont très contents de cette réforme. Ils en ont profité éventuellement pour investir davantage dans les entreprises familiales où il fallait servir de gros dividendes pour que les cousins de province payent leur ISF. On a pu réorienter un petit peu d'argent vers l'investissement productif. Et puis, pensons à l'image de la France. C'est vrai que si on a eu tout cet afflux de projets, notamment dans la high-tech, qui se sont faits, c'est parce que, en termes d'image, indépendamment du fondement économique, on a l'image d'un pays qui n'est pas avec des prélèvements confiscatoires.
Louis Morin, visiblement, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Alors, premier point, s'il y avait une telle hystérisation, peut-être que le président aurait un petit peu bougé. Il aurait pu bouger et pas rester tout le temps droit dans ses bottes sur ce sujet. Je pense que l'hystérisation, malheureusement, en partie, ça a conduit au gilet jaune et puis il n'est pas revenu sur ses mesures.
Là, il dit qu'il veut attendre d'évaluer.
Ça l'a conduit, heureusement, à infléchir un petit peu. Je crois que sur la politique fiscale globale, le problème, c'est que les Français, premier point, n'y comprennent rien, ne comprennent pas le sens de la politique fiscale globale. Deuxièmement, deuxièmement, ce type de mesure profondément injuste, rompt l'universalité des prélèvements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à des gens, des retraités, de contribuer ou n'importe qui de contribuer s'il y a une partie des gens qui ne participent pas au jeu, qui ne mettent pas la main à la pâte. Et ça, du coup, ça fait tomber l'ensemble de la politique qui finit par ne plus avoir de légitimité. On se demande où on va, on a l'impression qu'on fait des gestes pour certains et pas pour d'autres. Et puis ces gestes, ils sont quand même conséquents, parce qu'il y a l'ISF, mais il y a aussi un changement de la fiscalité des revenus du patrimoine qui est un peu plus complexe à expliquer, mais qui quand même représente plus d'un milliard d'euros. Tout ça, ça fait beaucoup pour 5 millions de Français qui sont pauvres.
Pardonnez-moi de vous interrompre, les Français sont... C'est-à-dire n'attache pas du tout la même dimension symbolique à la réduction de l'impôt sur les revenus du patrimoine.
Tout simplement parce qu'ils y comprennent rien. C'est extrêmement compliqué cette réforme.
C'est pour ça que je dis que l'ISF a une vertu symbolique incroyable.
Bien sûr, mais c'est pas
et
que
dans les deux sens.
C'est pas que symbolique. C'est-à-dire que quand vous demandez un effort à des gens, vous ne pouvez pas en exonérer une partie. C'est-à-dire c'est injuste. Et c'est cette injustice qui a explosé sur les ronds-points et qui, à mon avis, est très loin d'être retombée.
Et qui nous ramène peut-être aussi à l'épisode de la Révolution française, Nine Mossulavo, sur les privilèges et la répartition des richesses.
Oui, et c'est-à-dire que là, je pense que là, les gilets jaunes, bon, c'est les vacances, c'est tout ce qu'on veut, mais attention à la rentrée, hein, parce que c'est là que arriveront toute une série de, disons, de prélèvements, de tout ce que les Français vont voir concrètement, qui peut effectivement leur être enlevé.
Louis Morin, vous avez dit il n'y a pas très longtemps, dans un article, je vous cite, on ne réglera pas le problème des inégalités en s'en prenant aux 1% les plus riches.
Oui,
pourtant,
mais
vous avez l'air de nous dire
mais
le contraire.
Mais c'est là que je suis en partie d'accord avec ce que disait Vincent Beaufils tout à l'heure, et j'ai pas eu l'occasion de réagir, mais il y a une forme de démagogie. C'est-à-dire que on peut être d'accord à tous, à 99 contre 1, ce 1% les plus riches. Le problème, c'est que... effectivement, de cette indécence, il y a quelque chose à faire. On voit bien que les riches sont trop riches et qu'il faut faire quelque chose. Mais simplement, ça ne règle pas la question
générale. Merci beaucoup, Louis Morin. Vincent Beaufils, allez, vous avez 20 secondes pour conclure à votre tour.
Non, je voulais juste dire que, historiquement, ça va bien avant la Révolution française. Hein, c'est la royauté. Il y a une vieille méfiance entre l'aristocratie et le peuple. Et au fond, qui est la période rêvée pour tout le monde, c'est les Trente Glorieuses. Là, on avait le sentiment que tout le monde avançait, tout le monde profitait, et c'est vrai que ce n'est plus le cas maintenant, et que c'est une question que le capitalisme doit se poser à lui-même.
Merci beaucoup, Vincent Beaufils. Je renvoie donc à Challenge, ce numéro spécial avec les 500 fortunes. Il y a tous les chiffres, il y a tout ce qu'il faut. Louis Morin, allez, on renvoie au dernier
rapport
de l'Observatoire.
Sur les inégalités en France,
voilà,
qui vient de sortir comme tous les deux ans.
Janine Mossulavo, à votre livre, comment ça s'appelle encore ? L'argent et nous. Voilà, merci mille fois à tous de nous avoir appelés. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Claire Destacan qui est à la réalisation, Anne-Laure Cochet, Michel Bézikian à la technique. Merci aussi à Pierre Dessertaine, Emma Ferré, Mathilde Sourd. Et c'est l'heure de la pub.